La culture à l'Université de Rennes 2 est à l'honneur aujourd'hui. Et oui, il est temps de potasser le petit agenda, si ce n'est pas encore le cas, puisque la culture à l'université, c'est énormément de lieux, énormément de propositions. Et pour en discuter, nous sommes avec Sarah, qui est ici avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Alors, je le disais d'abord sur les lieux. Effectivement, pour s'y retrouver dans tout ça, il y a la chambre claire, il y a bien sûr cette salle du tambour, il y a aussi la galerie Art et Essai. Comment est-ce que fonctionnent tous ces lieux ensemble ?
Ah, là, ça, c'est une grande question pour commencer. On coordonne l' ensemble de l'activité de ces trois lieux avec une particularité sur la galerie Art et Essai où il y a un directeur artistique, un enseignant, John Cornu, qui a un mandat de 3 ans. Souvent, ce mandat est renouvelé une deuxième fois. Donc, généralement, il faut une période de 6 ans sur la direction artistique de la galerie. On est plus, nous, en support administratif, financier de ce lieu spécifiquement. En revanche, la programmation du tambour et de la chambre claire sont complètement programmées, administrées par le service culturel de l'université.
Énormément de choses au tambour, si on en reste sur le lieu, notamment cette salle qui a un peu évolué, qui est encore plus correspondante à tes attentes.
Oui, c'est une très belle salle. Il n'y a pas beaucoup de facultés, je pense, en France qui ont la chance d'avoir un lieu comme la salle du tambour. Et pour ces 20 ans, en plus, en novembre de l'année dernière, on a eu la possibilité d'apporter encore des améliorations à ce lieu et d'équiper les loges, la scène. On a une très bonne équipe technique qui équipe en termes de son et d'image la salle qui nous font ça aux petits oignons. Donc du coup, c'est vrai qu'on est vraiment gâtés de ce côté-là. On a un bel outil.
Et on salue bien sûr par cette occasion toute l'équipe technique et l'équipe généralement de cette saison culturelle parce que vous êtes nombreux à travailler d'arrache-pied. Quand on est un peu à la tête de tout ça, comme toi en tout cas, garante de la philosophie, qu'est-ce qu'on garde en tête quand on va chercher des spectacles? Qu'est-ce qu'on essaie d'avoir un peu au cœur et dans la tête?
Il y a plusieurs choses. Ce qu'on a d'abord en tête, c'est pour qui on le fait. Et on s'adresse aux étudiants et à la communauté universitaire plus généralement. Donc ça, c'est vraiment ce que moi, je garde à l'esprit tout le temps, de penser au public à qui on adresse nos propositions et pourquoi on leur adresse ces propositions, en quoi ces propositions-là, on estime qu'elles vont être complémentaires de leur parcours de formation, en quoi on estime qu'elles peuvent leur apporter une ouverture sur le monde. Bah, c'est à ça qu'on pense quand on choisit. C'est ce qui est le plus dur. Et puis, l'idée après, c'est de trouver des partenaires, puisqu'on n'a pas vocation, nous, au niveau du service, à développer dans une bulle une programmation culturelle sans qu'elle repose sur des partenariats aussi bien avec les acteurs culturels rennais que évidemment avec les enseignants, les assos étudiantes, etc. sur le campus.
On peut prendre un exemple, le Mois de l'Imaginaire, c'est un partenariat qui existe depuis un moment déjà.
L'année dernière.
Voilà, ouais. Mais qui s'étoffe encore peut-être un peu plus cette année. Sur cet exemple-là, comment ça a fonctionné ?
Eh bien, le Mois de l'Imaginaire, ça a été vraiment une première opération l'année dernière. On s'est rapproché des éditions critiques qui sont partenaires des deux soirées qu'on va proposer cette année, qui étaient déjà partenaires pour l'année dernière. Et l'idée, là, c'est vraiment de montrer à travers les littératures qui sont pas les littératures académiques qu'on étudie, la littérature classique, mais plutôt la fiction, la science-fiction, les polars, la BD qui commencent à rentrer de plus en plus comme dans les esprits, comme des outils aussi de recherche dans les universités, mais c'est assez récent finalement. Donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner ce mouvement-là, comment des outils finalement de culture populaire peuvent être des outils de recherche et de support d'action culturelle pour nous au niveau du service. Et donc là, on a deux rendez-vous. Une conférence sur tout l'univers de Lovecraft lundi 15 octobre, si ma mémoire est bonne. Et également une table ronde où là, on s'est associé à une enseignante de Rennes 2 qui va s'entourer de doctorants pour travailler sur la question de la transidentité dans ces littératures. Et là, c'est l'idée d'être en lien avec des thématiques de société qui sont très fortes et dont on entend beaucoup parler aujourd'hui et voir comment ces thématiques traversent ces objets culturels, la science-fiction, le polar, etc.
Parmi les thématiques justement qui sont hyper importantes en ce moment et d'actualité, c'est les mardis de l'égalité qu'on retrouve. Alors là, c'est pareil, il y a une équipe pédagogique qui s'en occupe un petit peu, mais apparemment, vous travaillez aussi avec eux pour la programmation de ces moments-là.
Oui, alors ça, les mardis de l'égalité, ça a été vraiment institué au niveau de la présidence de l'université. C'était une volonté forte d'avoir une vice-présidente, en l'occurrence Christine Vallant, qui est vice-présidente de la mission égalité, qui a institué ce cycle de conférences bosse avec une enseignante chercheuse qui est Fanny Bugnon qui pilote le cycle. Et cette année, voilà, on a proposé de s'associer et d'accompagner parce qu'on avait vraiment envie que ces conférences rencontrent du succès parce que ce sont des questions, les questions autour du féminisme, du genre qui nous interrogent beaucoup et on voulait amener nos forces vives pour ces rendez-vous et on a ensemble élaboré une partie de la programmation des mardis de l'égalité de cette saison 18-19. Donc on en a proposé trois et les quatre suivantes sont proposées par les deux enseignantes en charge.
C'est donc un rendez-vous mensuel. Allez voir les mardis de l'égalité, les thématiques sont très diversifiées finalement autour de ce thème-là, mais vraiment à chaque fois des choses complètement passionnantes. Parmi les choses, on va dire, un peu plus fun, aller peut-être, on va dire, plus pour attirer le public, parce que j'imagine qu'il y a un équilibre dans cette programmation, c'est leur proposer des choses aux étudiants un peu curieux, puis il y a aussi leur faire prendre des habitudes de venir dans cette salle.
C'est tout l'enjeu. C'est tout l'enjeu, d'où notre communication cette année qu'on a voulu complètement décaler avec un délire sur les licornes et qui visiblement rencontre son succès. Mais l'idée, c'est comment pour passer un message, il faut déjà avoir un auditeur, avoir un spectateur. Et donc, c'est de voir comment le premier contact s'établit. Donc, il faut briser la glace. Donc, l'idée, c'est d'avoir une communication plutôt sympa. Et éventuellement aussi des rendez-vous qui soient des rendez-vous plus légers, fédérateurs, qui vont donner envie et donner l'habitude aux étudiants et au reste du public à venir au tambour, à connaître le lieu et finalement à avoir un peu de curiosité sur l'ensemble de la saison, au-delà du rendez-vous pour lequel ils sont venus, qui était peut-être un peu une accroche. Mais... Donc oui, on a quelques rendez-vous qui sont un peu plus légers, mais comme nous, on revendique aussi le fait que tout objet, y compris de culture populaire au sens très large, peut être intéressant comme objet d'étude. Tout est utile, en plus d'être agréable dans les rendez-vous qu'on propose.
Donc on peut y faire des choses sérieuses et un peu moins sérieuses et en tout cas aussi très festives. Ce sera le cas d'un des premiers rendez-vous le 25 septembre avec Soul & Pepper. Une fois de plus, vous êtes avec un acteur local, la compagnie Engrenage. Comment ça s'est déroulé, discussion avec eux ?
Ben là, c'était vraiment une volonté de notre part de commencer la saison avec quelque chose qui soit marquant et qui symbolise notre volonté d'ouverture, de fédérer les publics, de se retrouver pour un premier rendez-vous dans la joie. Mmh. Et Engrenage, ça fait bien partie de leur ADN d'être dans quelque chose de transversal, dans la bonne humeur, dans le participatif. Et donc là, ça s'est assez vite imposé à notre esprit d'inviter Engrenage pour ce concert qui est plus qu'un concert, puisqu'on va inviter tout le monde à danser et à suivre les pas. Et l'idée, c'est vraiment qu'on commence dans la joie cette année universitaire.
Vous aimez bien aussi les propositions un peu curieuses, voire même aventureuses. Et en plus, quand c'est des locaux qu'ils font, je pense là, par exemple, à Totoro and Friends, qui vont proposer un game concert. Totoro, voilà, ils viennent de Saint-Brieuc à l'origine, mais sont étiquetés un peu comme des Rennais. Donc c'est un groupe local qui fonctionne quand même très bien. On les découvre le 11 octobre avec cette proposition-là. Un game concert, ça va ressembler à quoi, en fait, concrètement ?
C'est le principe du ciné-concert, mais sur un jeu vidéo. C'est une discussion avec eux. On avait envie de les accueillir au tambour et ils nous ont dit on a créé ça. En plus, ils l'ont créé, je crois, ici en coprod avec Travelling. Et ils nous ont proposé de venir avec ce game concert où ils jouent en live sur un jeu vidéo qui est projeté donc sur le principe du ciné-concert. Et comme dans nos combats, il y a donner de la place dans notre saison aux artistes locaux. On retrouvait toutes nos envies, à la fois être sur des formes croisées, ludiques, et faire la part belle aux artistes de Rennes et de la Bretagne plus généralement.
C'est le 11 octobre à 20h, mais vous retrouvez bien entendu tout ça dans le programme L'agenda culturel Licorn Flakes, avec justement cette idée de com, cette licorne. C'est venu comment cette idée ? J'essaie d'imaginer la réunion ou le moment.
En fait, on est en brainstorming permanent dans l'équipe du service. On est toujours en train de beaucoup s'amuser en fait, dans l'équipe, et de pas se censurer en fait dans nos discussions. Et on est toujours en train de se dire ça serait drôle pour la saison. Ça serait drôle pour la com. Et en fait, on garde nos idées et parfois on les file. Et là, on s'est fait un petit délire sur les licornes. Et en fait, à la fin d'année universitaire dernière, on était tous quand même un peu dans une situation qui était particulière avec les blocages, etc. Et là, on s'est dit, tiens, c'est vrai que la licorne, ça serait pas mal pour commencer l'année, ça mènera une touche de bonne humeur tout de suite, on repart de bon pied. Et puis symboliquement, en fait, plus on en parlait, plus on s'est dit que ça avait du sens aussi et que c'est pas juste un délire entre nous, parce que la licorne, ça charrie tout un imaginaire qui est hyper intéressant. C'est un animal extraordinaire, c'est un animal profondément libre qu'on ne peut pas attraper. C'est la capacité de se projeter en fait dans quelque chose d'imaginaire et pour moi, la culture, c'est aussi ça. Ça apporte quelque chose d'autre que notre réel, notre quotidien. Donc, c'était tout ça à la fois.
Moyen d'encourager un peu les gens vers la liberté. Faut avouer qu'on a aussi autour de cette salle pas mal d'acteurs qui se mobilisent aussi. Je pense là aux bibliothèques universitaires, que ce soit l'ABU qu'on connaît ou l'ABU de Musico qui propose ses jeux de Wii. On sent qu'il y a beaucoup de diffusion d'idées dans tout ça. C'est une richesse, j'imagine, aussi, vous, pour nourrir votre programmation, même tout simplement d'être entouré de gens aussi motivés à amener la culture auprès des étudiants.
Oui, c'est ce qui, je crois, évolue depuis quelque temps et qui porte ses fruits. C'est maintenant un dialogue qui vraiment est nourri et intéressant entre tous les opérateurs culturels déjà du campus. On a créé des liens, on échange, on se tient au courant des projets, on fait des passerelles entre les projets des uns et des autres. Voilà, ça crée une dynamique et je pense que ça invite les spectateurs, le public plus largement à vraiment aller papillonner et se nourrir de tous les rendez-vous qu'on peut proposer aussi bien à la BU qu'à la médiathèque, au Tambour et autres.
Nous, on aime bien aussi les passerelles, on aime beaucoup bosser avec Sénar, avec l'Arène Théâtre par exemple, ou avec tous les acteurs que j'ai situés là. En ce qui concerne l'Arène Théâtre, on va avoir la chance cette année d'accueillir la présentation du Festival TNB, et qui sera animé par un animateur de SILAB et la présidente de l'Arène Théâtre. Et cette fois, cette présentation du Festival TNB ne se fera que ici et pas au TNB. Oui. Donc c'est quand même un privilège assez dingue, puisque ça attire quand même beaucoup de monde.
Oui, on est en échange vraiment très très régulier avec le TNB et on avait déjà accueilli les années précédentes cette présentation, mais là il y a eu une volonté forte de la part du TNB à ne faire qu'une seule présentation et effectivement de la faire chez nous pour adresser vraiment un signal fort et adresser des messages aux étudiants, aux jeunes et d'inciter les plus jeunes à venir et à devenir des fidèles du théâtre tout simplement. Et c'est vrai qu'on est très contents d'accueillir cette présentation, d'avoir enfin les informations, puisqu'il y a quelques petites choses qui sont dévoilées, mais on est curieux de connaître la programmation du festival. Et d'ailleurs, elle est avancée, cette date est annoncée dans notre agenda au 9 octobre, et donc ça aura lieu le jeudi 4 octobre à 13h au Tambour.
Le 4 octobre à 13h, on sera présent. Et nous, on a d'ailleurs eu des bouts du programme en avant-première, puisqu'on la présente. Alors, on est obligé de tenir le secret, ça s'appelle un embargo. Mais on est quand même assez fiers d'avoir tout ça. Encourager les étudiants à découvrir le théâtre, c'est un des objectifs du TNB. Vous voulez encourager les étudiants aussi à faire par eux-mêmes. C'est des propositions qui existent déjà depuis un moment, mais vous les transformez. Il y a le À vous de jouer, le tremplin musique actuel, ou le Faites court, ça c'est un concours d'écriture de forme courte, avec des lots à gagner. En tout cas, voilà, l'idée, c'est vraiment de mobiliser tous les gens. Cette année, il y a des nouveautés et notamment une volonté de les emmener sur une discipline que je ne connaissais pas spécialement, qui s'agit d'art postal, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Oui, effectivement, pour moi, la découverte culturelle, c'est autant la voir que la pratiquer. Et parfois, c'est par la pratique qu'on devient spectateur aussi. Et on a développé depuis l'année dernière, mais alors là, cette année, je crois vraiment encore plus considérablement, toute une offre d'ateliers de pratique artistique nos concours qui évoluent tous, en fait, puisque le concours de nouvelles Faites court, avant c'était donc un concours de nouvelles, cette année c'est son 20e anniversaire, ça sera un concours de formes courtes, donc vraiment toutes les formes sont possibles, ça peut être un plaidoyer, ça peut être un article de presse, ça peut être une poésie, ça peut être une nouvelle, enfin selon l'inspiration, mais tout le monde peut être plus largement que sur juste la nouvelle candidat à ce concours. Nous avons effectivement le tremplin musical qui lui ne change pas. Le concours photo va évoluer et ça sera un concours sur Instagram au début d'année. Voilà, quelque chose de plus spontané que la pratique photographique telle qu'on la faisait avant. Et la fameuse opération d'art postal, donc le mail art. Donc là, c'est pareil, c'est quelque chose qui se rapproche aussi de notre philosophie plus globale, j'ai envie de dire. Le mail art, c'est en fait très ancien. Ça se pratiquait déjà, sans porter le nom, les siècles précédents. Mais ça a été conceptualisé, on va dire, dans les années 70 aux États-Unis, par le courant que beaucoup connaissent, le courant Fluxus, qui a commencé à lutter contre la marchandisation de l'art et sur le fait que l'art devait rester libre, gratuit, et donc devait pouvoir circuler. Et donc le MailArt, c'est simple, c'est n'importe qui, sur n'importe quel support, avec n'importe quel moyen, fait une œuvre, qu'il envoie par la poste, et l'adresse et le timbre doivent être directement sur l'œuvre. À partir du moment où on a un support et de quoi écrire, et un euro pour acheter un timbre, puisque maintenant c'est presque un euro quand même un timbre, et ben, on peut participer et envoyer une œuvre d'art postal au service culturel. Et l'idée, c'est d'exposer toutes les œuvres dans les halls des différents bâtiments de la fac au printemps. Et l'idée, c'est aussi de dire que tout le monde peut être artiste, il faut juste avoir un peu d'imagination, de créativité. Et on propose 3 ateliers autour de cette opération d'art postal, avec un mail artiste pour ceux qui ont besoin un peu d'aide pour se mettre le pied à l'étrier. Et puis, il y aura un petit temps de présentation par une enseignante de Rennes 2 aussi, qui a travaillé sur le sujet et qui pourra présenter plus rapidement que je ne le fais là, un peu l'historique de ce mouvement, qui est le mail art, que des artistes comme Ben ont pratiqué. Mais en fait, il y a même des artistes très connus qui l'ont fait, mais qui ont arrêté de le faire parce que certains collectionneurs se mettaient à vendre leur œuvre d'art postal, alors même que le principe, c'était justement de lutter contre la marchandisation. Donc voilà, mais c'est assez passionnant et ça rend des choses assez géniales. Enfin, moi, j'ai pratiqué avec des tas de publics différents. J'ai reçu des œuvres en dentelle brodée de personnes qui étaient en EHPAD, comme des dessins magnifiques de personnes qui étaient en prison, des dessins hyper naïfs d'enfants, de maternelles. Voilà. À tout âge, tout niveau, toute condition, toute pratique artistique, on peut faire de l'art postal et j'invite vraiment tout le monde à participer. On vous montrera jeudi à notre présentation de saison à 18h des exemples, puisqu'on en a déjà reçu, ça y est, c'est parti, on commence à recevoir des œuvres et c'est un vrai plaisir d'aller chercher le courrier le matin, du coup, parce que c'est comme si on avait un petit cadeau dans la boîte aux lettres tous les matins.
Et précisons que la Poste se fait encore un devoir de transmettre toutes ces choses-là, j'espère que ça va durer, mais effectivement, c'est presque, je ne sais pas si c'est une tradition ou si c'est inscrit dans leur statut, mais à partir du moment où il y a un timbre et que le poids correspond, ils sont obligés d'essayer de le faire parvenir. Donc c'est vrai que ça donne des choses très surprenantes. Alors, je constate un petit contre-pied quelque part, puisque le concours photo passe sur Instagram, mais en même temps, vous faites un atelier spécial de l'art postal, que à l'heure où tout le monde s'envoie des choses numériques. C'est un peu volontaire de vouloir jouer avec tout ça ou...
À la fois de ramener du lien sur certaines choses en faisant découvrir le mail art et en même temps être au plus proche des pratiques des étudiants d'aujourd'hui. Enfin, c'est vrai que aujourd'hui plus personne ne fait de photos avec plus personne. Si, heureusement encore, mais la pratique photographique, tout le monde l'a avec son appareil photo, tout le monde partage sur Snapchat ou Insta ou je ne sais quel réseau. Donc c'est l'idée d'être au plus près des étudiants et des pratiques et de continuer à être en phase, quoi. C'est ça le mot, c'est en phase. On vieillit, on n'est plus étudiants, nous, et il faut rester en cohérence avec le public auquel on s'adresse, quoi.
C'est comme ça qu'on garde un peu de fraîcheur aussi, être au contact des jeunes, ça fait du bien. À la présentation de la saison culturelle, tu l'as dit, ce sera le 20, donc jeudi à 18h. Juste après, il y a une projection aussi. C'est quoi le bonheur pour vous? Tu peux nous en dire plus?
Oui, dans la lignée de tout ce que je vous ai dit avant, toujours la bonne humeur, commencer l'année en se posant les bonnes questions et relativiser les choses négatives et regarder le verre à moitié plein. On commence l'année avec un rendez-vous où à la fois on vous présente toute notre saison, jusqu'à avril 2019. Et ensuite, on propose ce film de Julien Perron, qui est un réalisateur qui est d'origine bretonne et qui a fait ce documentaire en interviewant aussi bien des anonymes que des universitaires, des chercheurs sur la notion de bonheur et finalement à quoi correspond le bonheur pour chacun d'entre nous, qu'est-ce qu'on met comme définition derrière le mot bonheur. Et ça nous permet de nous interroger nous-mêmes sur... ce qui est essentiel à notre vie et nous, on croit que la culture, c'est essentiel à l'épanouissement personnel de chacun. Et c'était pour nous un bon démarrage que de proposer ce film en tout premier rendez-vous de saison.
Eh bien, pour ne rien manquer, rendez-vous le 20 à 18h et à 20h donc pour la projection « C'est quoi le bonheur pour vous ?». Merci beaucoup, Sarah, d'avoir été avec nous.
Merci de m'avoir invité.
Et puis, on retrouvera régulièrement via le Memento et via des interviews, puisque merci à vous et à toute votre équipe de nous permettre d'accéder aussi aux artistes qui se produisent. Donc, nous, on garde un œil très attentif à tout ce qui se passera au Tambour.
Merci.
Et on va écouter tout de suite Totoro. Alors, c'est un extrait de leur dernier album et non pas du game concert qu'ils vont proposer, mais c'est sur Syllab et ça fait plaisir.
Lab.
La radio sauvage.